Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.
Bonjour à tous. Dans ce nouveau numéro de Pionniers de la ville durable, nous avons le plaisir de recevoir Pascal Chazal. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Pascal Chazal, vous êtes le CEO du groupe Hors-Site, mais vous êtes surtout le pionnier de la construction hors-site en France. Alors avant de rentrer dans les détails de ce que c'est que le hors-site, pour qu'on puisse comprendre, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire en fait hors-site ?
Alors en fait c'est tout simple, hors-site ça veut dire en dehors du chantier. En fait, traditionnellement on construit les bâtiments sur le chantier et depuis toujours. Et il y a un mouvement qui est en train d'apparaître aujourd'hui, notamment dans le monde anglo-saxon, qu'on appelle le off-site building, où finalement, au lieu de tout faire sur le chantier, on va fabriquer des éléments, des petits, des grands, des simples, des complexes,
oui.
Et qu'on va fabriquer dans un autre lieu, dans un atelier, dans une usine, et ces éléments, à quelque part, à forte valeur ajoutée, on va les transporter sur le chantier et les assembler très rapidement. Ça offre de nombreux avantages. Et c'est en plein développement dans le monde entier.
Alors justement, comme vous dites que c'est plein d'avantages, qu'est-ce que ça apporte finalement au monde de la construction ? Est-ce que les choses vont aller plus vite en utilisant cette façon de travailler ?
Alors le monde de la construction, comme vous le savez, c'est un monde qui, en fait, est la plus importante activité au monde. Et c'est un monde qui n'a pas fait encore, et c'est un des seuls, qui n'a pas fait encore sa transformation industrielle et digitale.
Et oui.
La plupart des produits que nous achetons, nous en tant que consommateurs, sont fabriqués dans des usines avec des process industriels très élaborés qui utilisent les techniques du lean manufacturing, par exemple, qui sont nées après-guerre, notamment au Japon, et qui nous offrent des produits de très très grande qualité. On peut en juger tous et toutes quand on achète aujourd'hui un produit quel qu'il soit. Le bâtiment est le seul qui n'a pas fait cette mutation-là. Et faire cette mutation, réussir cette industrialisation, eh bien, c'est peut-être réussir à régler les problèmes qui sont devant nous, qui sont les problèmes de la construction aujourd'hui,
oui.
Qui sont de plus en plus aigus, avec des difficultés à tenir des budgets, à répondre à notamment au logement abordable, par exemple, ou à construire des écoles ou des hôpitaux. Également, les difficultés à tenir la qualité aujourd'hui. On sait que cette activité de construction, cette activité qui est quelque part en souffrance, hein, les entreprises ne gagnent pas d'argent, et ça va s'accélérer parce que les bâtiments que nous faisons, on vient de voir sortir la RE 2020 par exemple, qui va pousser très fort,
oui.
Notamment vers la construction bois, parce qu'il faut protéger l'environnement. Quelque part, ça, ce sont des contraintes supplémentaires qui sont rajoutées, et ce, depuis des années. Donc, les bâtiments deviennent complexes, et pas de chance, ils deviennent complexes, et au moment où la main-d'œuvre qualifiée est en train de partir à la retraite. Et les jeunes ne sont pas vraiment séduits par ces métiers du bâtiment, et ils ne remplacent pas aujourd'hui les anciens qui s'en vont. Donc, on doit faire des bâtiments plus complexes, avec une main-d'œuvre moins qualifiée. Le résultat, c'est la productivité qui s'écroule, et ça, c'est constaté. Aujourd'hui, on a par exemple des études qui nous disent qu'en France, en 20 ans, la productivité d'un ouvrier a baissé de 20%.
Mais alors justement, comment les acteurs de la construction doivent se positionner pour mettre cette évolution, voire peut-être cette révolution en marche ?
Alors, moi, je ne parlerai pas d'une révolution.
Donc plutôt évolution pour vous ?
Évolution.
Très bien.
Oui, je parlerai d'une évolution, parce qu'effectivement, révolution, c'est peut-être la crainte que l'industrialisation de la construction soit prise par des acteurs comme Google, comme IKEA.
Oui,
comme, vous voyez, c'est la crainte, ça pourrait être celle-ci. Moi, je n'y crois pas vraiment à ça. Je pense que le monde de la construction, c'est un monde complexe. Ça démarre toujours sur un terrain. S'il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de construction. Ce qui n'est pas le cas de l'automobile ou d'une machine à laver. L'automobile, elle peut circuler partout. Un bâtiment est lié à un foncier. Et donc, tout démarre toujours du foncier. Donc, je pense que les acteurs qui maîtrisent le foncier sont plutôt les acteurs de l'immobilier et de la construction. Ils ont un rôle à jouer. Et je crois, moi, beaucoup à la collaboration entre des acteurs de la construction et des industriels. Mmh. Alors, des industriels qui peuvent être des acteurs de la construction eux-mêmes, qui évoluent vers l'industrie. On a vu, par exemple, les menuisiers commencer à faire de l'ossature bois il y a une trentaine d'années. Mmh. Aujourd'hui, ils commencent à faire de la construction modulaire. Il y en a qui ont même réussi à créer de très belles usines. Donc, on peut dire qu'ils sont en train de devenir des industriels. Mais on peut aussi voir arriver des industriels d'autres univers qui peuvent s'intéresser à ce marché-là, particulièrement en ce moment, quand on entend parler de 15 000 licenciements chez Airbus, par exemple, quand on entend parler de l'auto électrique qui va complètement détrôner la voiture à moteur thermique, ça veut dire qu'il y a plein d'usines qui vont fermer, celles qui fabriquaient des pots d'échappement. On peut parler des bateaux de croisière. Hein. Les bateaux de croisière, ils avaient des carnets de commandes pleins jusqu'à 2030, qui risquent bien de disparaître compte tenu de ce qui vient de se passer. Eh bien, on peut réussir avec ces industriels-là à produire des éléments à très forte valeur ajoutée pour le bâtiment. Et c'est par la bonne collaboration entre les acteurs du bâtiment et les acteurs de l'industrie qu'on peut faire des réussites formidables. Et on a de très bons exemples aujourd'hui.
Alors, parlez-nous par contre du campus hors site. Qu'est-ce que c'est et quels sont ses objectifs?
Alors, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est que le sujet est beaucoup plus culturel que technique. Techniquement, aujourd'hui, on a toutes les solutions pour construire, ça peut paraître peut-être surprenant, mais pour préfabriquer hors site à peu près n'importe quel bâtiment. Hein, le record du monde aujourd'hui, c'est 45 étages en hauteur, par exemple en construction modulaire. Il y a des exemples dans le monde entier absolument incroyables, et y compris en France. Donc, c'est pas technique, c'est culturel. Parce que quelque part, comment vous expliquer ça? Je vais faire une petite anecdote. Imaginons que vous ayez envie de changer de voiture et que vous arriviez chez votre concessionnaire préféré et puis que vous ayez fait dessiner votre voiture par un ami designer.
Oui.
Et puis vous allez voir votre concessionnaire en lui disant « ben voilà, moi je voudrais cette voiture-là ». Bon, il y a beaucoup de chances pour qu'il vous dise « désolé, mais moi je ne sais pas faire je peux que vous proposer les voitures qui existent dans mon catalogue et il y en a tout plein ». Et en fait, la manière de faire des bâtiments aujourd'hui, c'est celle-ci. Et on va concevoir à chaque fois un bâtiment particulier, spécifique, au prétexte que les bâtiments sont toujours à des endroits différents et répondent toujours à des usages différents. Mm-hmm. Mais il est tout à fait possible de penser autrement. Pour que la préfabrication réussisse, la construction hors site réussisse, il faut utiliser ce que l'on appelle le DFMA, Design for Manufacture and Assembly, on doit concevoir pour préfabriquer. Et ça, c'est pas l'usage. L'usage, c'est je conçois et puis je lance une consultation et puis les entreprises répondent. Et en fait, le campus hors site, donc c'est une école de formation qui est la première école de formation destinée à la construction hors site, qui va former l'ensemble des acteurs à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et comment il faut changer nos manières de faire pour réussir la construction hors site.
Et elle est gratuite.
Alors voilà, nous avons des formations gratuites, ce sont des modules de formation en e-learning. Une personne peut s'inscrire et suivre ces modules de formation, faire un auto-apprentissage. Et puis nous avons également des formations, cette fois-ci payantes, où nous formons, nous avons formé par exemple des contrôleurs techniques, nous avons formé des bureaux d'études, et voilà, nous avons des offres de formation en présentiel qui permettent bien sûr d'aller beaucoup plus loin.
Alors évidemment, Pascal Chazal, vous ne vous êtes pas concentré que sur le hors-site, vous avez été aussi chef d'entreprise, hein, vous avez créé de nombreuses entreprises. Un mot peut-être sur les trois entreprises que vous avez créées?
Alors, je remonterai un petit peu plus loin si ça vous ennuie pas. En fait, moi, dans les années 80, je fais un voyage en Finlande et je découvre qu'on peut construire des maisons en bois, alors qu'en France, on les fait avec du parpaing. Et moi, je trouve cette idée géniale de faire des bâtiments, de faire des maisons avec une ressource renouvelable comme le bois. Et donc, moi, je trouve ça magique et je décide à l'époque de créer une petite entreprise artisanale que j'appelle Ossabois.
Oui.
Et à cette époque, il y a 40 ans, personne ne connaît le mot ossature bois. Au bout de 30 ans, Ossabois, c'est 300 personnes, c'est 300 usines et à peu près 15 000 maisons individuelles construites. Et puis on s'oriente vers de nouveaux marchés, des marchés vers les bailleurs sociaux, vers les promoteurs. Et là, en fait, je découvre finalement le monde du bâtiment et je découvre que je suis un peu comme un chien dans un jeu de quilles, quelque part, un industriel perdu dans un univers bâtiment. Et quand je vends l'entreprise en 2012, je décide d'essayer de répondre à cette question. Pourquoi, alors que tous les autres secteurs ont fait leur transformation industrielle, la construction continue à se faire sur le chantier de manière artisanale et finalement peu efficace? Et après avoir fait le tour du monde, je me rends compte que ce n'est pas un problème technique, mais que c'est vraiment un problème culturel.
Oui, c'est une façon de voir les choses.
Et donc, exactement. Et donc, je découvre dans le monde anglo-saxon ce terme de offsite building et je découvre surtout que c'est un nouvel écosystème qui est en train de se mettre en place. Et j'ai envie d'amener cet écosystème en France parce que je me dis que si on veut réussir l'industrialisation, il faut quelque part une passerelle entre le monde de l'industrie et le monde du bâtiment. Ce sont deux mondes qui ne se comprennent pas, qui n'ont pas les mêmes codes. Et en fait, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. Et donc, je développe donc depuis 2017 l'écosystème de la construction hors site en France avec trois activités. Donc, la première, c'est une maison d'édition qui édite le magazine hors site. Donc, c'est un trimestriel. On est en train d'écrire le numéro 12. On a aussi organisé des colloques. Le premier colloque international de la construction hors site, qui était lors de Bâtimat, on s'était rencontrés, vous vous souvenez.
Tout à fait.
Colloque international. On avait aussi créé un salon de la construction hors site lors de Bâtimat 2019. Ça a été un véritable succès. À tel point que pour le prochain Bâtimat, qui est en 2022, le hors-site sera un secteur à part entière de bâtiments.
C'est une bonne nouvelle.
Donc ça, c'est la première activité, c'est l'information. Deuxième activité, c'est la formation avec le campus, on a déjà parlé tout à l'heure. Et troisième activité, en fait, c'est une activité de conseil, de consulting. On a un cabinet qui s'appelle Patch Conseil, qui accompagne d'un côté les bêtes d'ouvrage et de l'autre côté toute la supply chain de production. Ça commence par les architectes, les bureaux d'études, les entreprises et les industriels, finalement à se rencontrer pour faire émerger des projets hors site réussis qui vont finalement réussir le trépied du Lean, c'est qualité, coût et délai. Réussi.
Voilà, et tout ça a fait de vous évidemment le pionnier de la construction hors site en France. Merci beaucoup Pascal Chazal d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous des pionniers de la ville durable. Je rappelle que vous êtes donc le CEO du groupe hors site, mais il faut quand même rappeler que vous êtes aussi adhérent de Construction 21 et aussi rédacteur en chef du dossier spécial construction hors site, construction durable, publié en octobre dernier, qu'on peut retrouver sur le site de Construction 21. Merci beaucoup Pascal Chazal.
Merci beaucoup.
Les pionniers de la ville durable, une émission en collaboration avec Construction 21, le média social du bâtiment et de la ville durable.